je dois avouer moi-même que c'est une multitude de pensées qui me meuvent, qui me touchent, qui m'occupent, des choses promises par Dieu pour cette époque dans laquelle nous nous trouvons. Elles doivent s'accomplir, que cela nous convienne ou non, que nous le comprenions ou non. Mais une chose est valable pour le petit troupeau. Ne crains pas, petit troupeau, Luc 12, 32, car le bon plaisir de votre Père est de vous donner le royaume. La crainte n'est pas dans l'amour. Nous savons que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et même si le troupeau est petit, il est agréable au Père de lui donner le royaume. L'important, c'est que nous soyons son troupeau et les brebis de son pâturage, que nous n'écoutions que sa voix. Je ne voudrais pas qu'il vienne à l'idée de quelqu'un d'appeler ce week-end le week-end de la critique. Mais vous savez que je n'ai jamais rien fait de tel ici, ces jours-ci. J'ai voulu en grande partie ménager la situation parce que la plupart des gens savent ce qui se passe ici sans être affectés ou accablés par l'extérieur, en particulier par ce qui vient d'outre-mer, et on ne veut pas non plus charger quelqu'un de plus avec toutes les choses inutiles qui se passent. Mais d'un autre côté, nous savons et reconnaissons à travers tout l'heure qu'il est à l'horloge du monde. Nous avons entendu à maintes reprises la remarque de Frère Branham selon laquelle aucun don ne peut être considéré comme un signe définitif. Un signe définitif, pas même le parler en langue, et que l'on a déjà la licence, parce qu'on parle en langue, on a la licence pour l'enlèvement. Non. J'ai ici, et cela ne doit choquer personne, mais il est maintenant écrit par un ecclésiastique, vous savez ce que cela signifie, pas les enfants de Dieu spirituels, mais la spiritualité, une grande différence. Il est écrit, il se fait appeler Père Mekati, c'est la salutation d'un prêtre catholique qui s'adresse à eux en tant que Père. Et ensuite, il est écrit en gros et en large, vous pouvez le lire vous-même. Smokes a pipe and speaks in tongues. Cela signifie en bon français, il fume la pipe et parle en langue. Oui, mais ce n'est pas rare, ce n'est pas rare du tout. Toute l'Amérique est remplie de gens qui parlent en langue. Dans l'église catholique, même dans l'église épiscopale, chez les méthodistes, chez les baptistes, chez les presbytériens, partout, tout est rempli de gens qui parlent en langue. Partout. Et l'un impose les mains à l'autre et chacun retourne à son culte originel. Je ne sais pas si on devrait appeler cela service divin. Je dirais là plutôt culte. Ou idolâtrie même et refait les mêmes actes au nom du Père, Fils et Saint-Esprit et tout ce qui va avec, comme avant. Et on loue cela de tous les côtés du magazine que c'est le miracle de notre temps, que le Saint-Esprit est maintenant tombé, s'est répandu sur tous et que chacun reste comme il était. Non, n'est-ce pas? Vous comprenez? Chacun reste comme il était. N'est-ce pas? Dans sa nature, dans la communauté religieuse, dans l'habit officiel, dans l'acte officiel, dans tout le cours des choses, tout reste comme avant, sauf une chose qui semble avoir été ajoutée maintenant. Tout le monde dit quelque chose. Et Dieu sait si l'on doit même parler de ça comme étant un parler en langue. Si j'ai bien lu la Bible, le parler en langue signifie parler une autre langue qui existe quelque part sous le ciel. Et au début, on le comprenait à Jérusalem. Et plus tard, Paul a donné l'ordre suivant. Si l'on veut parler en langue, qu'il soit deux ou plus trois qui et qu'un seul donne l'interprétation, afin que tous sachent ce qui a été dit par l'Esprit. Mais ce qui se passe aujourd'hui, personne ne comprend l'autre, et pourtant, ils parlent tous. Et vous savez que Frère Branham a dit, c'est le temps où les vierges folles viennent acheter l'huile. Et il a dit littéralement, ils n'ont pas reçu l'huile de l'Esprit, mais ils parlent tous en langue. Et voilà, ça doit ressembler tellement, n'est-ce pas, au vrai. On pourrait nous dire un jour, qu'avez-vous de plus que nous? Regardez, alors je dois vous dire où tout cela se passe ici, aussi en Allemagne, dans le cercle œcuménique, près de Karlsruhe, où David Duplessis vient et avec des pasteurs protestants et tout est pris pour eux et ils parlent tous en langue. Cela se passe ici comme ailleurs, mais pas autant qu'en Amérique. Et pourtant, les choses sont connues ici aussi. Je ne sais pas si cela a quelque chose à vous dire. Pour moi, en tout cas, si on fait de la publicité, un livre doit coûter 1,95€ du père McCarthy qui parle la langue et fume la pipe. Et il y a suffisamment de gens qui dépensent ce dollar, n'est-ce pas? 95 pour savoir comment il parvient à fumer la pipe et à parler en langue. Ils sont prêts à donner le 1,95$. Si c'est en même temps, je ne sais pas. Peut-être successivement. Fumer et ensuite parler en langue. Mais le monde, on ne le comprend pas. Mais est-ce que Frère Branham n'a pas dit qu'il viendra un temps où l'on pensera que toutes les choses ne seront plus du tout normales, que les choses ne seront plus à classer et que seul un reste s'échappera pour fuir la perdition? Nous sommes reconnaissants à Dieu et je le dis, il n'y a pas eu dans mon cœur ces dernières années une reconnaissance aussi profonde envers Dieu, envers ce qu'il a fait en ce temps que depuis le changement de cette année. Je vois certaines choses différemment, je les vois plus précieuses, plus pénétrantes et surtout dans leur impact dans notre vie. Nous sentons qu'une grâce de Dieu nous a été accordée, que nous pouvons nous asseoir aux pieds de Jésus, que nous pouvons manger une nourriture pure, qu'écrit le prophète Ézéchiel au chapitre 34. Il dit, ne vous suffisait-il pas de boire de l'eau pure? Pourquoi devez-vous remuer cette dernière avec vos pieds pour que les autres boivent l'eau remuée? Nous sommes cependant reconnaissants envers Dieu. Il a donné de l'eau pure à boire et personne ne la remuera pour nous. Elle ne vient pas d'un quelconque étang stagnant. Elle vient du rocher vivant et personne ne peut fouiller le rocher. Celui qui commence par là se fera du mal. Il se fera du mal. De l'eau vive, de l'eau sainte, de l'eau pure et pour reprendre les termes du prophète Ézéchiel, il a vu. De dessous le seuil du temple est sorti un fleuve. C'est quelque chose de magnifique. Le fleuve a jailli et nous pouvons y boire. Merveilleux est le nom de notre Dieu. La parole du Seigneur en ce temps est plus précieuse que tout. On pourrait tout nous prendre, mais pas la parole de Dieu. C'est avec elle que nous vivons et que nous mourons. Ces jours-ci, j'ai dû réfléchir à la question suivante. Quel privilège ont eu les serviteurs et les enfants de Dieu qui ont pu sceller leur témoignage par leur vie? Quoi qu'il en coûte, nous savons en qui nous croyons. Et la manière dont nous quittons cette terre n'est pas grave. L'important est la manière dont nous arrivons là-bas. Et si nous marchons ici dans la foi, unis à Dieu et à la parole de Dieu, je crois qu'il n'y a pas de retour en arrière pour nous. Il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a qu'à avancer, aller de l'avant et le chemin est tracé. Et qu'au milieu de nous, Dieu a également donné la confirmation de cette époque de telle manière que chaque époque dans laquelle une autre couleur de l'arc-en-ciel rayonnait éclipsait néanmoins chaque époque individuelle avec l'arc-en-ciel. Dieu a toujours à cette époque, nous le savons, ne l'ai-je pas dit dans la prière d'hier soir, l'arc de l'alliance sur celui qui était assis sur le trône et sur celui qui posait le pied sur la terre et sur la mer. L'arc de l'alliance était sur sa tête et dans chacun des sept âges, il a tenu sa parole et s'est souvenu de son alliance. Il a pris un de ses hommes, il a ouvert la bouche et rempli son cœur. Et il a dit, dis ce que je vais t'inspirer. Et ils ont tous prononcé la parole du Seigneur en leur temps. Et il s'en est réjoui. Nous savons qu'il y a encore un combat entre la lumière et les ténèbres. Mais ce combat se terminera bientôt. Il sera alors que l'ange puissant descendra du ciel, une chaîne à la main, et saisira le dragon, l'ancien serpent, le serpent ancien, je peux le lire. Il fait encore des ravages. Et cette partie de la prophétie est aussi contemporaine qu'elle peut l'être. Nous allons bientôt parler d'Apocalypse 12. Il est dit ici dans Apocalypse chapitre 20, du verset 1. Puis j'ai vu un ange, Apocalypse 20, verset 1, descendre du ciel avec la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, c'est-à-dire le diable et Satan, le mit dans des chaînes pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Même le Seigneur Dieu n'est pas nécessaire pour régler ses comptes avec le diable. Un ange descend du ciel, le prend et le fait descendre. Et il est dit qu'un sceau a été apposé pour qu'il ne fasse pas de mal pendant ces 1000 ans. De la double insistance d'hier soir sur le fait que nous devons bien constater d'une part que le dragon est proche du chemin et qu'il ouvre sa gueule pour dévorer. Cela m'a rappelé aujourd'hui la parole d'Apocalypse 12 alors que je rentrais du service divin du matin. Il est dit ici dans Apocalypse 12 du verset 3. Puis soudain, un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête, 7 couronnes royales. Sa queue balaya le tiers des étoiles du ciel et les projeta sur la terre. Le dragon se plaça ensuite devant la femme qui était dans les douleurs, pour dévorer son enfant aussitôt après sa naissance. Et elle donna naissance à un fils, un garçon, qui paîtra toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et son trône. La femme s'enfuit alors dans le désert où elle a un lieu préparé par Dieu pour y être nourrie pendant 1260 jours. D'abord jusqu'ici, cette sainte et précieuse parole de Dieu. Le dragon s'est placé devant la femme pour dévorer le fils mâle qui était sur le point de naître. Nous savons qu'il connaît le langage biblique. Il nous suffit de revenir à une lettre d'envoi. C'est une promesse faite aux vainqueurs. Et les vainqueurs sont les élus, et qu'ils soient appelés l'épouse face à l'époux, qu'ils soient appelés le fils mâle qui sera enlevé. Quel que soit le nom qu'on leur donne, il est dit ici, dans l'Apocalypse chapitre 2, dans la lettre d'envoi à l'église à Thyatira. Peut-être lisons-nous le verset. Oui, le verset 26. Apocalypse 2, verset 26. Et À celui qui vaincra et persévérera dans mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Et il les pètera avec une verge de fer, comme on brise un vase de terre. Notez seulement en particulier la promesse faite au vainqueur. Je lui donnerai le pouvoir de dominer sur les nations, comme on brise un vase de terre. Ici, la parole d'Apocalypse 12 dit, et elle enfanta un fils, un garçon, qui pètera toutes les nations avec une verge de fer. Apocalypse 12, c'est un complément direct et parallèle à la parole, à la lettre d'envoi à l'Église. Nous savons qu'elle a été adressée au vainqueur. Sur qui Satan veut-il déverser sa colère? Certainement pas sur ceux qui restent en arrière. Il le fera plus tard, lorsqu'il sera dit qu'il s'est tourné vers la femme, qui s'est enfuie dans le désert. Tout d'abord, l'attention du dragon n'est pas dirigée vers les vierges folles, mais vers les vierges sages, non pas sur celles qui resteront en arrière, mais sur celles qui parviendront à l'enlèvement. Car il est dit ici que le dragon se plaça ensuite devant la femme qui est dans les douleurs, qui était dans les douleurs pour son enfant. Non pas pour la femme, mais pour ce qui sortira de la femme en tant qu'Église par cette naissance. Non pas l'Église dans son ensemble, mais les vainqueurs qui sortiront de l'Église par cette naissance. C'est devant eux que le dragon se place pour les engloutir. Si rien ne me trompe, nous vivons à l'époque où les douleurs sont venues sur l'Église. Comme c'est écrit, Sion est dans les douleurs et doit accoucher de ses enfants, doit enfanter de ses enfants. Et nous savons que lorsque ces douleurs s'abattent sur l'Église, l'accouchement n'est plus très loin. Diverses contractions s'abattent maintenant sur l'Église du Seigneur. Parfois, cela fait mal. Mais, bien sûr, les contractions sont douloureuses. Mais il faut que la naissance ait lieu. Et ce que la femme enfante dans le temps, ce sont les vainqueurs. Ce sont des hommes qui sont enlevés vers Dieu et vers son trône. C'est le groupe sur lequel le dragon porte son attention en ce temps. Pour les autres, il peut encore faire tinter lui-même, sonner lui-même la cloche de l'église, cela ne le dérange pas. Mais les élus qui lui échappent, lisez donc attentivement avec moi, Apocalypse 12, verset 4, la deuxième partie. Le dragon se plaça alors devant la femme qui est dans la douleur pour dévorer son enfant aussitôt après sa naissance. Non pas la femme, mais l'enfant qui allait naître pour le dévorer. Vous savez que certaines choses sont au singulier dans les Saintes Écritures. Exactement comme je l'ai dit tout à l'heure, le terme épouse est au singulier. Bien qu'une foule innombrable puisse en faire partie, le terme est au singulier, afin de rendre claire la relation avec l'époux. Le terme femme, composé d'on ne sait combien de membres appartenant à l'Église du Seigneur, est néanmoins au singulier, femme. Et nous savons que même si ces mots, ou même le terme de vierge, bien que l'Écriture parle de 10 vierges, nous savons que le royaume de Dieu n'est présenté que sous forme de parabole, mais que ce ne sont pas seulement 5 qui seront enlevés et entreront dans les noces. Nous pourrions alors chercher les 5 et les autres pourraient rester chez eux. Non, c'est juste un exemple pour dire la moitié de ceux qui se sont levés pour aller à la rencontre de l'époux seront là quand le Seigneur reviendra et entreront dans la joie et le festin de noces du Seigneur. Donc, ici, le dragon se place devant la femme pour dévorer le fils mâle. Je sais que ce passage biblique est surtout interprété en ce qui concerne Israël, mais je vous demande pardon. Il n'est écrit nulle part dans les Saintes Écritures, pas une seule fois, que les 144 000 seront enlevés. Il est écrit dans Apocalypse 14 qu'ils se tiennent avec l'agneau sur la montagne de Sion. La montagne de Sion est à Jérusalem. Et il n'y a qu'un seul enlèvement, c'est l'enlèvement de l'Église achevée de Jésus-Christ qui participera au festin des noces. Or, nous voyons ici le dragon debout devant la femme, mais son attention est fixée sur le fils mâle. Mais grâce à Dieu, remercié soit Dieu, il n'a pas pu s'approcher même du fils mâle. Je ne sais pas ce que le dragon a fait à ce moment-là, mais je sais qu'il est écrit dans la Bible. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Il n'y avait pas de prise. Il a peut-être ouvert la bouche, mais il ne pouvait pas la fermer parce qu'il n'avait pas de proie. La gueule était ouverte. La fermeture ne pouvait pas se faire. Parce qu'au moment où les vainqueurs sont prêts à être enlevés et à sortir par cette naissance, Dieu a fait en sorte que le dragon ne puisse pas venir à bout des vainqueurs. Si je peux continuer à lire ici, si c'est merveilleusement, c'est si merveilleusement dit du verset 7. Il se leva alors un combat dans le ciel. Vous voyez ce que c'est? Tout d'abord, il se place ici devant la femme pour dévorer le fils mâle. Puis, après que le fils mâle a été enlevé, il est de nouveau en haut. Il est dit, il se leva alors un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le verset 7. Le dragon et ses anges combattirent aussi. Nous avons entendu, car nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre des princes et des puissances. Et pas contre la chair et le sang, pas seulement contre la chair et le sang. Et il est dit au verset 8, « Mais ils ne remportèrent pas la victoire et leur séjour ne fut pas prolongé dans le ciel. » Le diable a encore accès au ciel. Il peut accuser les frères de jour et de nuit. Mais ce jour-là, toute accusation est terminée. S'il veut encore accuser les élus, Michel et ses anges en auront fini avec le dragon et ses anges. Et il sera jeté en bas, puis il viendra sur cette terre. On dit alors qu'il est en proie à une immense colère car il sait que son temps est compté. Il est dit ici du verset 9, Apocalypse 12, verset 9. Ainsi donc le grand dragon, le serpent ancien, appelé diable et Satan, celui qui séduit le monde entier, puis précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Le verset 10, « Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui criait, « Maintenant le salut, la puissance et la royauté sont venus à notre Dieu, et la domination à son oint, car il est tombé l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu, devant notre Dieu, jour et nuit. » Voici maintenant la parole merveilleuse, verset 11. Ceux-là l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Réjouissez-vous donc, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est maintenant descendu vers vous, animé d'une violente colère, sachant que son temps est compté. Son temps est compté très court. Au moment où les vainqueurs sont enlevés, et vous savez que cela va de pair avec Matthieu 22, alors que la salle des noces se remplissait, un homme s'y était mêlé qui ne portait pas du tout de vêtements de noces. Et le roi dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici d'ailleurs ?» Et il dit, « Attrapez-le, liez-lui les mains et les pieds et jetez-les dehors. » Et c'est la même chose ici. Il y a eu une bataille dans le ciel. Michel et ses anges se sont battus contre le dragon comme à l'époque de Job. Quand les fils de Dieu se sont réunis, il était là aussi présent. Et puis lorsque les fils de Dieu, le fils mâle est enlevé, le combat surgit encore dans le ciel. Non seulement... Non seulement sur la terre, pas seulement sur la terre, mais aussi au ciel. Et il est dit qu'il a eu accès pour accuser les frères. de jour et de nuit, comme de nuit. Mais une chose est sûre, le sang parle pour nous. Le sang du Nouveau Testament, le sang de l'agneau parle. Et la miséricorde et la grâce nous a été accordée. Même le diable ne peut pas accuser les élus de Dieu. Il ne peut pas les accuser, car le Seigneur a justifié par son sang précieux et saint et a donné une victoire totale par grâce. Réjouissez-vous donc, c'est pourquoi, réjouissez-vous donc, cieux et vous qui habitez dans les cieux. Verset 12, n'est-ce pas là quelque chose de glorieux? Après tout, cette heure n'est pas si lointaine, si lointaine. Ce n'est pas comme si nous étions maintenant à l'époque de Moïse ou de Noé, ou lorsque l'Apocalypse a été écrite. Nous vivons à l'époque où tout cela s'accomplit. Nous vivons à l'époque où bientôt nous serons enlevés. Si hier soir, d'une manière aussi, aussi pénétrante, si cela nous a été montré aussi clairement comment le dragon ouvre sa gueule et montre ses dents et est prêt à dévorer, alors nous ne pouvons qu'être rappelés à cette parole. Le dragon s'est placé devant la femme pour dévorer le fils mâle dès qu'il a seulement fait surface. Mais il n'y avait rien à dévorer, il n'y avait rien. Il fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Le dragon était toujours là. Il n'avait pas de proie, car les rachetés sont du Seigneur, appartiennent au Seigneur. Satan ne peut pas les toucher. Il ne peut pas les dévorer. Beaucoup craignent que le diable ne prenne encore quelques croyants. Il ne prendra aucun croyant. C'est le Seigneur qui prendra les croyants, pas le diable. Le Seigneur les ramènera dans sa gloire, car il a versé son sang sur la croix à Golgotha pour eux, non pas pour que le diable vienne les chercher, mais pour qu'il les ramène dans sa gloire. Et il dit, Jean 14, 3, « Et quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Ça, c'est la parole du Seigneur. Frères et sœurs, nous ne devons pas avoir peur du tout, même si l'on montre de telles images que l'on pourrait presque être effrayé. La peur n'est pas dans, la crainte n'est pas dans l'amour, et cette parole donne un tel éclaircissement et une telle consolation. Le dragon s'est placé devant la femme, mais le fils mâle a été enlevé vers Dieu et son trône. Et le dragon s'est levé et a suivi. Ici, il a manqué l'accès. Maintenant, il veut encore faire quelque chose là-haut. Mais Michel est déjà là avec ses anges et ils combattent le dragon et ses anges et toute la puissance des ténèbres est jetée en bas et est précipitée en bas. Et alors il est dit, Apocalypse 12, 12, malheur à la terre et à la mer, car le diable est maintenant descendu vers vous, animé d'une violente colère, sachant que son temps est compté encore, est compté très court. Mais pour ceux qui sont au ciel, c'est à eux que s'adresse une parole du Seigneur. À cette troupe là-bas, car alors nous serons nous aussi déjà entrés dans la gloire céleste, car cela est écrit après l'enlèvement. Et nous voyons que la joie sera grande dans le ciel, car il est dit ici, Apocalypse 12, verset 11, « Ceux-là l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Jésus a dit, Luc 9, verset 24, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Et nous avons donné notre vie, nous l'avons donnée dans la mort pour la retrouver dans la vie, car par la grâce de notre Dieu. Et nous savons qu'il a ouvert la voie. Et c'est bien ce qui est écrit. Ce qui est écrit, il a tracé un chemin glorieux et personne ne peut glisser à droite ou à gauche. Le Seigneur lui-même veille sur ce chemin qu'il a éclairé sur et sur lequel il nous guide. Et même si ces 7 degrés ont été montrés de telle manière que cela a commencé bas et est allé toujours plus haut, nous ne le voyons pas. dans tous les âges de l'Église. Maintenant, la chose arrive à sa conclusion et à son point culminant, à savoir dans... Et il n'y aura pas eu d'époque où l'on aura vu ces sept époques aussi clairement que nous pouvons maintenant le voir rétrospectivement par la grâce de notre Dieu. Le Seigneur lui-même a veillé si glorieusement sur ses paroles. Il n'est jamais arrivé en retard, même lorsque la situation semblait parfois désespérée, comme nous l'avons entendu ce matin. Il a fait du chaos du début un paradis, un jardin d'Éden. Mais de quoi s'agissait-il? L'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'abîme. Là où l'Esprit de Dieu ne plane pas, il reste le chaos et l'obscurité. Mais là où l'Esprit de Dieu plane, la parole du Seigneur retentit. Et partout où la parole de Dieu est prononcée, il y a de la lumière. C'est là que la lumière est séparée des ténèbres et qu'il est manifeste que celui qui est de la lumière marche dans la lumière. Car la lumière et les ténèbres n'ont rien de commun. L'Esprit de Dieu planait également au cours de l'Église du Nouveau Testament. Déjà montré par la parole prophétique de Zacharie chapitre 4, selon laquelle le réservoir d'huile était placé au-dessus du chandelier à sept branches avec les sept tuyaux de coulée qui faisaient descendre l'huile sur le chandelier. C'est Dieu le Seigneur et c'est là que nous arrivons à la parole sur les sept esprits de Dieu. Nous voyons que Dieu a laissé son esprit percer à nouveau dans ces sept époques et qu'il planait au-dessus de l'abîme. Et chaque fois que la parole du Seigneur a été prononcée, l'Esprit l'a rendue vivante. Et ce sont des hommes qui ont pu croire de tout leur cœur et de toute leur âme ce qui leur a été révélé par l'Esprit de Dieu. Ils ont donné leur vie par centaines de milliers au cours de la Nouvelle Alliance et n'en ont pas jugé la valeur parce qu'ils ont vu et envisager la récompense qui leur serait accordée. Dieu a veillé à ce que, à toutes les époques où les hommes ont reçu le message de Dieu, ils aient été audacieux et fermes, ne s'écartant pas d'un pouce de la parole du Seigneur. Ils ont tout abandonné, mais se sont accrochés à la parole de Dieu. C'est ce qui nous arrive en ce temps. Jamais la parole de Dieu n'a été et n'est devenue aussi importante, aussi précieuse, aussi grande pour nous qu'en ce moment. Il semble où que nous lisions que Dieu nous parle déjà avant même que nous comprenions, que nous commencions à comprendre de quoi il s'agit. Les pensées de Dieu sont déjà si vivantes devant nous et nos cœurs commencent à s'enflammer, même si le dragon s'est dressé, il ne peut pas dévorer le fils mâle, car il doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Nous savons que cette parole fait référence au royaume millénaire, donc au millénium. Mais avant de revenir pour régner et gouverner avec lui dans le royaume millénaire, dans le millénium, nous participerons au festin de noces de l'agneau. Apocalypse 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Ce sera la cause, la raison, la raison de notre joie et de notre adoration. Il est dit, précipitez. Vous savez ce que cela signifie? Ce que cela devient quand quelqu'un est précipité. Cela ne se fait pas en termes légers. Quand quelqu'un est tombé, quand on entend dire qu'un tel ou un tel est tombé, c'est un peu de la pagaille, n'est-ce pas? Et ça va se gâter à ce moment-là. Ce sera un remue-ménage. Satan voudra encore une dernière fois faire valoir son droit d'une manière ou d'une autre. Mais déjà, Michel est là. Et il le tient. Et il est précipité. L'accusateur de vos frères. Celui qui vous a accusé devant Dieu de jour comme de nuit. Mais ensuite, la parole s'accomplit. Verset 11, ceux-là l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Les hommes qui s'aiment eux-mêmes ne peuvent pas aimer Dieu. Et les hommes qui aiment Dieu ne peuvent pas s'aimer eux-mêmes. Les personnes qui croient la parole de Dieu devront renier leur propre parole à leur égard et dire, « Seigneur, fais-moi parler ton langage, fais-moi penser avec tes pensées, remplis mon cœur. » Je pense maintenant à la prédication de Frère Branham. Il a expliqué, je ne sais pas, je vais bientôt traduire ceci. Il a dit, si quelqu'un prétendait avoir la vie de Beethoven en lui, on s'attendrait à ce qu'une telle personne soit un deuxième Beethoven. Et il donna l'autre exemple en disant, si quelqu'un affirmait avoir la vie de Shakespeare, on s'attendrait à ce qu'une telle œuvre soit faite par lui. Puis il a poursuivi en disant, « Si nous rendons témoignage d'avoir reçu la vie de Jésus-Christ, de quelle œuvre devons-nous faire preuve ?» Et qu'est-ce que nous devons faire? Et les Écritures disent, 1 Jean 4, verset 4, « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Jean 16, verset 33, « Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » C'est la parole du Seigneur qui habite en nous. Celui qui habite en nous est plus grand que toutes les choses du monde. Il est plus grand que toutes les puissances ennemies et il a tout vaincu sur la croix à Golgotha. Lorsque nous disons, il a fait sa demeure dans notre cœur. Quelle foi! Oh, quelle assurance! Quelle certitude doit-il y avoir dans notre vie lorsque nous disons, le Seigneur de gloire a fait sa demeure dans notre cœur. Il ne peut plus y avoir d'incertitude, de doute ou de timidité et d'hésitation dans le cœur. Si le Seigneur a pris place dans notre cœur, alors il règne, alors il remplit, alors il pourra manifester lui-même sa vie à travers nous. Quelle grâce nous a été accordée par Dieu de savoir que pas un seul des élus de Dieu ne manquera en ce jour-là. Et s'il est écrit cette fois dans Apocalypse 2 et 3, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra. Et il est dit ici, Apocalypse 12, verset 11, ceux-là l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Qui étaient les vainqueurs à chaque époque? Ceux qui ont cru et accueilli et reçu la parole de la promesse. Ils ont avancé. Ils sont allés de l'avant bénis. Ils n'ont pas utilisé leur intelligence pour démonter les choses spirituelles. Ils ont utilisé l'esprit pour recevoir les choses spirituelles rassemblées. Car ce qui est grave à notre époque, c'est que tout le monde peut démonter les choses spirituelles, mais personne ne peut les recevoir rassemblées. Seulement si Dieu, si l'Esprit de Dieu le révèle et nous fait recevoir les choses rassemblées. L'Église de Dieu est comme un bâtiment préfabriqué. Tout le matériel est là. Tout est là. Il suffit de le placer au bon endroit. Frères et sœurs, Dieu a encore une fois mis en évidence les sept âges. Il nous a rappelé une fois de plus que les sept étoiles sont dans ma main droite. Les sept anges aux sept églises. Et tant que le Seigneur les a dans sa main droite, aucune assemblée, aucun homme ne les a. Et parce qu'ils étaient dans la main droite du Seigneur, ils pouvaient dire ce que le Seigneur leur avait demandé de dire, leur avait ordonné de dire. Maintenant, nous voyons tout dans la glorieuse lumière. Et lorsque le prophète Esaïe écrit, en ce temps-là, la lumière du soleil sera sept fois plus brillante. Je me demande dans quelle lumière resplendit maintenant tout le conseil de salut de notre Dieu. Aujourd'hui, une petite Mais parmi nous, en sait plus que certains de ceux qui ont vécu dans le passé. Pourquoi? Parce que c'est le temps de la révélation maintenant. Non plus le temps de la prédiction, mais le temps de l'accomplissement. Quand le Seigneur Jésus marchait sur la terre, il y avait tant de femmes autour de lui qui le servaient, qui avaient abandonné, quitté tout. Et quand elles étaient possédées, ils chassaient les démons hors d'elles, comme de la qui était de celle-ci. Il a dû chasser 7 démons, mais ils sont tous venus à lui, n'est-ce pas? Il y a des gens qui disent, si quelqu'un est possédé, il ne peut pas venir au Seigneur. Ce n'est pas vrai. Même le possédé qui habitait dans les tombes est venu jusqu'au pied de Jésus. Quand Dieu a un projet pour un homme, il peut habiter n'importe où, que ce soit dans les tombeaux ou sous les tombeaux. Quand son heure a sonné, il trouve son chemin jusqu'au pied de Jésus et il le libère et il devient normal. Et retourne dans sa maison et devient une bénédiction pour les autres. Devient une bénédiction pour les autres. Frères et sœurs, nous avons tous été ici et là. Mais un jour, nous sommes venus au pied de Jésus. Et il nous a libérés. Il nous a donné la grâce. Et nous a revêtus de vêtements de salut. Et soudain, nous sentons qu'une eau fraîche coule du trône de Dieu. Et que le fleuve atteint tous ceux qui ne font que s'approcher pour boire de l'eau, de cette eau. Ce qui compte, c'est l'attitude dans laquelle nous écoutons la parole de Dieu. Lorsque nous sommes saisis par la parole du Seigneur et que nous savons de quoi il s'agit, et que nous cherchons le contact avec Dieu, c'est cela qui compte. J'ai déjà dit ce matin à quoi sert de dire « je lève les yeux vers les montagnes » si l'on n'a pas de lien avec celui qui a créé les montagnes. À quoi sert de dire « je lève les yeux au ciel » si l'on n'a pas trouvé le lien avec ce que fait le Dieu des cieux en ce temps présent? Le prophète Ésaïe a déclaré « c'est en vain qu'ils m'honorent parce qu'ils annoncent des commandements d'hommes comme leurs ordonnances. » Et ils ont abrogé, annulé la parole de Dieu pour proclamer leur tradition. Le cœur pourrait se briser quand on voit comment le peuple de Dieu a été dépouillé et que le prophète dit « mon peuple est un peuple pillé, un peuple dépouillé ». Mais on continue à leur faire croire que vous avez tout, soyez tranquille, et ils continuent à dormir. Mais que sera-t-il le jour où nous nous réveillerons? Je vous le dis, la vérité, moi aussi, j'avais l'impression que nous, les églises du plein évangile, nous avions tout. Nous avions plus que tous les autres. Et puis soudain, quand la parole du Seigneur a été révélée, alors, j'ai dû voir que c'est à nous tous que la parole est juste. Apocalypse 3, verset 17, parce que tu dis, je suis riche, oui, je me suis enrichi et je ne manque de rien. Et parce que tu ne sais pas que c'est toi qui es misérable et digne de pitié, pauvre, aveugle et nu. Nous nous sommes ensuite rassemblés au pied de Jésus. Et il nous a donné des vêtements blancs et une nourriture précieuse, la manne céleste, dont les autres ne veulent pas du tout. Ce n'est pas pour eux. On pourrait aussi avoir de la peine pour cela, que les uns croient et les autres ne croient pas, que les uns acceptent et les autres n'acceptent pas. Mais tout cela est entre les mains de Dieu seul. Nous ne pouvons pas en décider. Lorsque le Seigneur Jésus a marché sur la terre, les uns ont cru, les autres n'ont pas cru. Les uns ont accueilli, les autres ont rejeté. Mais l'Écriture dit, Jean 1, 12, « Mais tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné la puissance, le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom. » Il en est de même aujourd'hui. Le Seigneur a parlé et tous ceux qui l'ont reçu l'ont fait de la manière dont il s'est révélé et non de la manière dont ils l'ont arrangé ou voulu ou interprété. Avec Dieu, personne n'a besoin de tricher. Avec Dieu, nous devons prendre les choses telles qu'elles nous sont données. Il n'y a pas d'autre moyen pour Dieu. C'est pourquoi nous sommes si reconnaissants qu'il nous ait donné la grâce de pouvoir croire de manière enfantine et sincère, de savoir qu'il a envoyé sa parole en ce temps. Le dragon a longé le chemin tracé pour, pas seulement en ce temps, le long de toutes les sept, le long de tous les sept âges. Il est passé, mais il n'a pas pu emprunter ce chemin. C'est un chemin saint. Et l'arc-en-ciel a illuminé chaque marche. L'arc de la alliance. Il voulait dire par là, je me souviens de mon alliance. Vous pouvez vous y fier. Je ne vous abandonne ni ne vous manque. Ne vous abandonne. Et je ne manque pas de prendre soin de vous. Et le Seigneur le sait, le dragon ne peut pas saisir. Car le Seigneur va prendre les siens à la maison. Comme un éclair, nous sommes partis et le dragon est là. Mais soudain, il constate qu'il est trop tard. Et alors il monte, mais il redescend aussi assez vite. Il redescend aussi vite, car il est écrit que son séjour n'était plus dans les cieux. Il a été jeté en bas. Et ensuite, il est dit que maintenant c'est le salut, la puissance et la royauté. Déjà l'annonce de la royauté pour le royaume millénaire est donnée ici immédiatement, car les vainqueurs sont entrés dans la gloire. Le règne peut commencer, mais avant que le règne commence, le Seigneur nous servira un repas. Il nous offrira un festin, comme il est écrit. Nous pourrons nous asseoir et il nous servira. Je repense alors à ce que Frère Branham a dit en pleurant. Il dit, je peux voir la table dans la gloire longue, très longue, et comme le peuple de Dieu s'assoit et le Seigneur sert. Frères et sœurs, tout cela est une réalité. Ce n'est pas une promesse vaine. L'arc de l'Alliance est là. Dieu est fidèle à sa parole. Que les cieux et la terre brûlent, que les collines et les montagnes disparaissent, que le dragon ouvre sa gueule aussi loin qu'il le peut. Le Seigneur dit, ils sont à moi. Je les ai rachetés et appelés par leur nom. Ils sont à moi pour le temps et pour l'éternité. Le Seigneur mettra un terme aux agissements de Satan et ne permettra pas qu'il touche au peuple de Dieu. Nous arriverons intacts auprès de Dieu. Ce n'est pas avec ceci et cela. Non, ce sera avec un triomphe, avec la bénédiction du Dieu Tout-Puissant. Nous entrerons dans la gloire. Pas avec des lamentations et en disant, Seigneur, cela était pénible. Ce n'était pas pénible du tout. C'était la gloire de marcher avec lui sur terre. C'est ainsi que nous le chantons. Parfois, c'est un peu difficile. Mais soyons honnêtes. Tout nous est arrivé pour le mieux. Dieu savait ce qu'il pouvait permettre sur notre vie. Et il n'a pas encore permis plus que ce que nous ne pouvons pas supporter. Aucune tentation autre qu'humaine ne nous a encore touchés et personne n'a encore été tenté au-delà de ses moyens. Dieu a encore réussi à faire en sorte que l'on puisse supporter. Et c'est lui qui a toujours trouvé une issue. Et si c'est devant nous, comme si c'est sombre, la Bible ici dit, parle d'un dragon rouge feu. La chose peut ne pas paraître bonne, mais une chose est sûre, ne crains pas, petit troupeau. Il a plu au Père de te donner le royaume. Ainsi la promesse de Dieu est donnée, et ainsi Dieu l'accomplira. Ce qui vient, vient. Que les martyrs soient morts, et que ce qui vient soit. Une chose est sûre, le dragon ne dévorera personne, que ce soit dans la mort ou dans la vie, le dragon ne dévorera personne. Nous entrerons dans la joie du Seigneur. Car c'est ainsi qu'il l'a dit. Je m'en vais, vous préparez une place, puis je reviendrai. Il est écrit dans Actes 1, verset 9 et verset 11 qu'il a été enlevé dans une nuée et que ce même Jésus reviendra de la même manière que vous l'avez vu, s'élevant vers le ciel. Nous lisons déjà une chose dans l'Épître aux Philippiens. Il a désarmé les puissances des ténèbres et les a mises au pilori, au carcan. Il a écrasé la tête du serpent ancien, car il est écrit, la postérité de la femme viendra écraser la tête du serpent. Il est dit, il te piquera le talon, mais tu lui écraseras la tête. Il te piquera le talon, mais tu lui écraseras la tête. L'aiguillon de la mort l'avait piqué, mais après tout, il est la vie et il a englouti l'aiguillon de la mort. Il a mis en lumière la vie éternelle pour ceux qui le croient Et il nous a fait sortir. L'Épître aux Hébreux écrit que nous étions retenus dans la crainte de celui qui avait le pouvoir de la mort. Il n'est plus écrit qu'il l'a encore. C'est écrit « avait » dans le passé. Le Seigneur est maître de la vie et de la mort. Il est maître de l'univers entier. Le diable ne peut rien faire, à moins que Dieu ne le lui permette. Il lui est permis par Dieu de séduire tous ceux qui lui appartiennent, mais il ne lui est pas permis de séduire un enfant de Dieu. Dieu veille sur les siens. Et il a dit, « Dans les paumes de mes mains, je vous ai marqué. Personne ne vous arrachera de mes mains. » Il n'y a aucune raison de craindre, aucune raison de se plaindre. Au contraire. Apocalypse 12, verset 12. « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui les habitez. » Vous qui habitez dans les cieux. Peut-être peut-on dire aussi, « Réjouissez-vous, vous qui habiterez bientôt dans les cieux. » Pourquoi pas? Pourquoi? On peut le dire. Une telle joie envahit nos cœurs déjà. Nous savons qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage et qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Apocalypse 12, verset 11. C'est pourquoi ils sont avec le Seigneur en tout temps auprès de lui parce qu'ils ont déposé leur vie sur l'autel du Seigneur. Ce matin, nous avons entendu le serment selon lequel nous devons nous consacrer au Seigneur comme un sacrifice vivant afin de connaître et d'éprouver quelle est cette volonté, la volonté bonne, parfaite et agréable de Dieu. Par la volonté permissive, la volonté bonne, parfaite et agréable de Dieu. Et la volonté agréable et parfaite de Dieu est révélée dans sa parole. Et c'est la volonté de Dieu que nous recevions toutes les paroles de sa bouche, que nous les croyions de tout notre cœur et que nous les mettions en pratique. Apocalypse 12, verset 12. Réjouissez-vous donc, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Apocalypse 10, 12. Car il est tombé l'accusateur de nos frères. Celui qui les accuse, qui les a accusés devant notre Dieu, jour et nuit. Sur la terre, plus d'un trône a été renversé au cours des temps. Plus d'une victoire a été célébrée. Mais en ce jour-là, ce sera une victoire et une chute comme il n'y en a jamais eu. Celui qui voulait s'élever au-dessus de tout sera précipité par-dessus, jeté par-dessus tout et sera renversé. Mais ceux qui sont dans les cieux se réjouiront et remercieront Dieu, lavé dans le sang de l'agneau, vaincu à cause de la parole, ou bien alors par la parole de leur témoignage, et n'ayant pas aimé leur vie. À quoi nous sert la réputation sur terre? À quoi bon tout cela si nous n'atteignons pas le but? Oh, que Dieu puisse mettre notre attention sur le but. Sur le but. Afin que nous perdions tout le reste et le considérions comme nul et non avenu pour atteindre le but que Dieu a mis devant nous. Et ce but, c'est l'enlèvement de l'Église, épouse achevée et née, sortie par cette naissance d'Apocalypse 12, changée en l'image de Jésus-Christ lui-même, chair de sa chair et eau de ses eaux, devenu un avec lui, avec celui qui nous a rachetés, aimés et attirés à lui par pure grâce et miséricorde. C'est le temps de la séparation. L'Esprit de Dieu plane sur l'abîme. La parole du Seigneur a été prononcée. La lumière s'est faite, dit le prophète. La lumière fut, dit le prophète. Ésaïe 61, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est venue et la gloire du Seigneur a répondu sur toi. Dans le Nouveau Testament, il est écrit, Jean 1, 5, et la lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas saisie, comprise ou acceptée. Il en est de même en ce moment. Il devait y avoir de la lumière au temps du soir et il y en a eu. Mais les ténèbres et les enfants des ténèbres ne l'ont pas compris. Les enfants de lumière Eux l'ont compris et s'en réjouissent comme du plus grand butin. Il n'y a pas de comparaison que nous puissions faire pour exprimer ce que nous ressentons à propos de la parole révélée de Dieu en ce temps. Dieu n'a pas tenu compte du temps de l'ignorance et maintenant il a donné son éclaircissement consécutif comme jamais auparavant et un aperçu des plus profonds mystères de Dieu. Le dragon est là. Il se place devant la femme pour dévorer le mâle, le fils mâle. Nous pouvons lire dans le prophète Ésaïe. Sion est entré dans ses douleurs et a enfanté ses fils. Nous pouvons nous y attarder pour mettre en évidence la signification des personnes appelées à sortir des églises ou de l'église et des personnes appelées à sortir d'Israël, les 144 000, afin de montrer ce que cela signifie dans la parole de Dieu. Mais pour nous, cela doit suffire pour aujourd'hui. Le dragon s'est dressé, mais il ne peut pas dévorer. Il ne peut pas nous toucher, car nous sommes la propriété de Dieu. Et le Seigneur nous a crié que nous atteindrions le but, que nous y parviendrions. Il nous conduit et le chemin débouche sur la gloire. Le ciel n'est pas si loin que nous le pensons parfois. Souvent, le ciel est très proche. Nous ne le remarquons juste pas vraiment. Mais la connexion avec Dieu est tout simplement là. C'est tellement merveilleux. Je crois que nous avons maintenant aussi toutes les raisons et tous les motifs de remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait par grâce. Amen. Prions pour cela. Pour ta sainte et prochaine parole, Dieu fidèle, tu nous parles en ces jours. Tu nous as montré, tu as mis devant nos yeux par la révélation prophétique la période dans laquelle nous sommes arrivés, à savoir le temps où le fils mâle doit sortir par cette naissance d'Apocalypse 12. Tu as déjà montré le dragon qui s'est dressé et s'est embrouillé et que tu veilles sur ton peuple et sur ton église. Et maintenant, tu as fait en sorte que cette parole, ta parole de révélation, soit proclamée. Et pour dire, veille sur mon peuple et sois attentif, car ce qui est écrit se réalise et ce que la bouche du Seigneur a prononcé par tous ses prophètes jusqu'à ce jour s'accomplit. Dieu Tout-Puissant, tu es tellement présent au milieu de nous que nous ressentons ta présence directe. Car voici que tu as parlé par révélation prophétique et que tu as fait connaître par l'esprit de sagesse quelle est la parole qui est en train de s'accomplir et tu l'as révélée au milieu de nous. Alléluia! Ton nom merveilleux, ta lumière s'est levée à travers nous. Tu nous as montré exactement où nous en sommes et dans quel temps nous sommes arrivés. Adoration et gloire à toi. Réjouissez-vous, vous tous qui allez habiter dans les cieux, car l'heure est proche où Dieu achèvera son œuvre et la mènera à son terme. Loué, exalté soit le Dieu, notre Seigneur, qui est, qui était et qui vient. Alléluia. Gloire, honneur et adoration à ton Saint-Nom. Amen.